Ok, du coup, nous, on est la radio Tilleul et on est avec Radio Tio, qui est une radio associative à Saint-Etienne. Donc nous, la radio Tilleul, on est aussi à Saint-Etienne. Donc on a un groupe de jeunes qui, tous les jeudis, on se regroupe pour faire des émissions collectives ou individuelles sur des sujets qui nous passionnent. Et du coup, aujourd'hui, on va interviewer des personnes de l'équipe de Radio Live qui, le 19 et 20 février, vont présenter leur spectacle à la comédie. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, dire qui vous êtes et, voilà.
Bien sûr. Alors, moi c'est Caroline Gillet. Je fais partie du collectif Radio Live. Et je suis par ailleurs productrice à France Inter. Je fais une émission qui s'appelle Full Continental.
Et moi, je m'appelle Aurélie Charon. Je fais aussi partie donc, de Radio Live. Je travaille à France Culture. J'ai entre autres une émission qui s'appelle Tous en scène sur le théâtre. Et on travaille ensemble depuis presque plus de 10 ans. Avec Caroline, on était à l'école de journalisme ensemble. Et on a commencé à faire des documentaires sur la jeunesse pour raconter la vie de jeunes gens un peu partout en France et dans le monde ensemble.
Alors, comment vous êtes venue à créer ce spectacle? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi?
En fait, donc on a commencé à la radio. Quand on avait 22, 23 ans, qu'on commençait à France Inter, on a fait des stages et puis on a fait des reportages. Et puis après, on a eu envie de faire des documentaires parce qu'on voulait vraiment raconter, enfin, faire du récit. Et on trouvait qu'il y avait peu de jeunes gens, justement, qui racontaient leur vie à la radio. Et donc en 2011, on a proposé à France Inter de partir en Algérie pour faire une grande série d'été, parce qu'en juillet-août, c'est des programmes particuliers, donc il y a de la place pour des émissions nouvelles sur la jeunesse à Alger. Et ils nous ont dit OK, et donc on a eu beaucoup de chance, on est parti un mois en Algérie et on a rencontré plein de jeunes gens qui avaient entre 20 et 30 ans. Et en gros, c'était aussi l'année des printemps arabes et des révolutions en Égypte, en Tunisie. Et on voulait leur poser la question de eux, ce qui se passait en Algérie. Il se trouve qu'il y avait eu une révolution en 88, un peu plus tôt, enfin bon, de la génération de leurs parents. Donc c'était super intéressant de réfléchir à cette jeunesse, à leurs rêves, leurs inquiétudes. Et ensuite, on a continué toutes les années à travailler sur la jeunesse, à faire des portraits, mais en allant dans plein d'endroits différents. Au début, surtout autour de la Méditerranée, dans des villes comme Istanbul, Sarajevo, Jérusalem, Beyrouth, Gaza. Et ensuite, très vite, on s'est dit, à l'intérieur des émissions de radio, on essaie de faire dialoguer ces gens-là par le montage, parce qu'on voilà, on passe d'une voix à une autre, mais ça reste évidemment très virtuel parce qu'ils ne se rencontrent pas dans la vraie vie. Et nous, on a la chance de pouvoir voyager, passer des frontières, avoir des visas et les rencontrer. Et donc, on s'est dit là, comment on peut faire qu'eux, ils se rencontrent et qu'on continue à partager ces histoires. Et c'est comme ça qu'on a inventé Radio Live. On s'est dit, on va aller sur scène, on va en appeler 3-4 à chaque fois. Ils vont venir de leur pays respectif. Et comme ça, on sera au même endroit, au même moment, devant un public. Et ils vont pouvoir à la fois se rencontrer et rencontrer en chair et en os les gens à qui ils vont raconter leurs histoires.
Tu veux que je rajoute quelque chose ou...
T'as une autre question. Et peut-être, du coup, on a rencontré
Amélie.
Oui,
on a rencontré Amélie ensuite, dans un deuxième temps. On s'est dit que ce serait intéressant de... En fait, ça a posé des questions très intéressantes de se dire, nous, on adore faire de la radio parce qu'on adore le son, on adore raconter des histoires, avoir le temps de raconter des histoires un peu complexes. On avait la chance de faire des émissions d'une heure. Donc, vous qui faites de la radio, vous devez savoir que c'est très agréable. Ça permet de faire des portraits plus... peut-être un peu plus complexe, de raconter la vie dans sa complexité. Et donc, on adorait la radio. On s'est dit, comment on va faire une fois qu'on se transpose ça sur scène? Parce que du coup, on va pas mettre les gens... Enfin, c'est pas une conférence qu'on a envie de faire. Sinon, ça a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Ou en tout cas, c'est pas l'objet qu'on cherche à créer. Et donc, on s'est dit, il faudrait qu'il y ait peut-être aussi une dimension visuelle. Et c'est là que Amélie a rejoint le projet. Et elle, sur un grand écran qui est derrière nous, elle dessine pendant tout le Radio Live, soit des dessins en direct, direct qu'elle propose elle, soit elle montre des vidéos ou des photos qui peuvent permettre de documenter la vie des personnes qu'on voit sur scène et qui racontent leur vie. Donc ça rajoute une dimension à la soirée. Et puis on a aussi décidé de demander à des musiciens de nous accompagner et de faire de la musique live, un peu comme il y aurait dans une émission de radio, avec un peu de voilà des espèces de respiration musicale. Et puis du coup on a réfléchi à la forme et comment à la fois les faire dialoguer entre eux, parce qu'on trouve ça très excitant de se dire que eux-mêmes entre eux ont beaucoup de points communs. Ils se posent souvent les mêmes questions, ils ont tous 20 ans, mais ils viennent de territoires très différents, mais parfois pourtant ils ont eu les mêmes problèmes, ou ils ont eu des mêmes questions, ou ils ont eu, en tout cas ce dialogue là nous intéressait beaucoup. Et puis par ailleurs de vraiment créer un espace où ils peuvent raconter leur vie, et du coup on voit se déployer sur scène toute l'histoire d'une personne de la naissance à nos jours. Et ça c'est
voilà. Et ce qui est important de dire aussi peut-être, c'est que eux ils ont rien préparé, dans le sens où ils ont pas un texte qu'ils vont répéter. Nous évidemment on se connaît très bien, donc ils savent de quoi on va parler, on a quand même préparé ensemble, ils sont complices, parfois ils nous envoient évidemment des photos de leur vie, des petites vidéos qu'ils ont tournées avec leurs parents qui eux peuvent pas venir, ou des membres de leur famille. Et après, nous, on prépare comme une émission de radio, comme vous, là, des questions, un déroulé, on sait à peu près. Mais eux, ils se laissent guider, ils nous font confiance. Et même nous, sur le moment, c'est pour ça que c'est très live et vivant, et qu'on aime bien aussi cette fragilité, ce côté, très vivant, de se dire que s'il y a une question qui, selon ce qu'ils disent, peut-être on pense à quelque chose qu'on n'a pas écrit sur notre conducteur, et ben on se permet évidemment de le dire. Et c'est en ça que ça reste très comme une émission de radio où il se passe ce qui se passe et on ne sait pas à l'avance exactement ce qui va se dire et ce qui va se passer.
Est-ce que vous avez voulu inviter dès le début des jeunes, ou c'est venu au fil du temps, de vos voyages, de vos rencontres?
Dès le début, en tout cas, les séries radio, c'était sur les jeunes, parce qu'on avait vraiment envie de... Déjà, c'était notre génération au début, on avait vraiment le même âge, et on trouvait que c'était intéressant de poser la question à une génération qui va devoir, de toute façon, réfléchir à son avenir et à son pays et à sa société, donc comment elle y pense. Après, c'est quand même une porte d'entrée, même dans le Radio Live, on parle beaucoup des générations de leurs parents, de leurs grands-parents, on parle beaucoup de transmission. Donc en fait, c'est des jeunes gens qui parlent sur scène. De temps en temps, on a invité d'ailleurs des parents, des frères et sœurs sur scène quand on a pu le faire. Mais c'est aussi un prétexte pour parler aux autres générations. Donc c'est pas qu'on a envie de parler que aux jeunes avec des jeunes, mais ça nous intéresse, une génération qui réfléchit à son avenir.
On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont, de ce qu'ils héritent de leurs parents, tout comme vous posez peut-être cette question-là, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on veut faire autrement? Est-ce que on essaie de changer certaines choses, et si oui, lesquelles? Et c'est intéressant parce que du coup, ça fait 10 ans qu'on fait ce travail, et de voir que à la fois les personnes qu'on a rencontrées au début, maintenant elles ont plutôt la trentaine, donc les questions qu'elles se posent sont plus tout à fait les mêmes, et en même temps on rencontre des nouvelles personnes qui ont 18-20 ans, qui se posent certaines questions les mêmes, d'autres un peu différemment, donc c'est intéressant d'observer. Et c'est vrai qu'on continue à se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace où on entend cette jeunesse, et que dans une société, c'est très important d'entendre ceux qui ont votre âge, parce que finalement, c'est vous qui allez faire des propositions pour demain. Que dans une société, c'est très important de créer des espaces où on écoute la jeunesse.
Et quels sont les critères pour être pris dans votre spectacle en tant que jeune?
Il faut être très beau, avoir des beaux vêtements.
On nous envoie des photos.
Et on choisit que sur le physique.
On organise une soirée.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est un gros casting. Non, c'est tout un mélange de choses. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois que ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes qu'on invite sur scène que celles qu'on invite à la radio. À la radio, comme on a du montage, on va rencontrer des gens parfois qui ne parlent pas français, ou du coup, on aura quelqu'un pour traduire. On va inviter des gens qui parfois sont plus timides, ne parlent pas très facilement. Et du coup, après, on va faire du montage. Et donc, ou aussi des gens qui ont peur de témoigner, qui sont dans des situations difficiles parce que soit par rapport à leur communauté il y a des choses qu'ils n'osent pas dire, ou qui sont dans une opposition à l'État, ou qui sont journalistes, du coup on a la possibilité de leur laisser l'anonymat, et comme à la radio il n'y a pas d'image, c'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup ce média là ça permet de garder une intimité,
d'être protégé,
voilà. Mais du coup sur scène ça pose d'autres questions parce que les gens sont plus anonymes, et puis parfois c'est aussi un exercice qui peut être compliqué de se retrouver devant un public à raconter son histoire. Alors, il faut faire attention de pas proposer à des gens dont l'histoire est encore trop fraîche, de parler sur scène si c'est encore trop fragile, si pour eux c'est une expérience douloureuse de s'exprimer sur scène. Il faut surtout pas qu'on leur fasse cette proposition-là, qu'on attende un petit peu, et peut-être plus tard, quand leur histoire est... quand ils ont un rapport différent, ça peut être plus facile. Il y a aussi la question de trouver des gens qui ont quand même une histoire qu'ils vont pouvoir raconter. Donc il faut qu'il se soit passé des choses, qu'on puisse raconter avec des images, avec du son. Et il faut qu'ils se sentent...
Je pense aussi le principal, c'est qu'aussi, ils ont très envie, comme nous, parce que sinon, ça fait plusieurs années qu'on le fait, et s'ils n'avaient pas envie, évidemment, ça se serait arrêté très vite. Mais je pense qu'ils ont aussi la conscience... comme nous, de l'importance de raconter ces histoires, parce que parfois, c'est vrai que comme on a été dans des lieux où il y a eu des conflits ou des histoires difficiles comme au Rwanda ou en Palestine ou en Bosnie, à Sarajevo, donc parfois c'est des choses pas évidentes. Il y en a qui ont vécu des guerres quand ils étaient enfants, mais c'est pas pour le plaisir évidemment de raconter des histoires difficiles, mais c'est juste que raconter ces histoires-là et ce qu'ils ont traversé raconte qui ils sont aujourd'hui et pourquoi ils se battent. Par exemple, il y a une jeune fille de Sarajevo où donc il y a différentes communautés qui vivent ensemble. Elle a vécu pendant la guerre, et dans sa famille, il y avait à la fois des musulmans, des catholiques, des croates, des bosniaques. Enfin bon. Donc toute l'absurdité de ce conflit qui n'a servi à rien que de faire des morts et diviser sa famille, elle l'a dans le corps aujourd'hui, elle se bat contre ça, et quand elle le raconte, elle, c'est très concret. C'est pas juste quelqu'un qui dit il faut, ça sert à rien de diviser. C'est juste que elle raconte comment concrètement son père et sa mère ont été séparés, comment elle a été touchée par une bombe quand elle était petite, comment. Et donc en fait, de raconter ça et ce qu'ils pensent aujourd'hui, c'est venant de ces endroits différents, c'est très fort. Et ils ont eux très envie de partager ça parce qu'ils savent pourquoi ils le font, et donc ils savent que c'est important de le faire, et que ça commence par raconter des histoires, en fait, parce qu'on peut débattre de plein de sujets, de société et tout ça, mais c'est vrai que nous on aime bien aussi que ça passe justement par le récit de vie, et donc je crois que c'est ça qui est fort aussi. Et puis après, c'est des histoires compliquées, difficiles, mais c'est aussi, enfin, le Radio Live, vous verrez si vous venez là en février, c'est quand même des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Enfin, c'est aussi très joyeux parce que c'est aussi ça leur vie. Ils sont pas que dans des histoires à penser à ça toute la journée. Ils sont en mouvement, ils sont en action, ils essaient d'inventer des modes d'action joyeux pour se battre et pour par exemple, cette jeune fille Inès dont je parlais, qui a vécu pendant la guerre, là, enfance, fait plein de choses aujourd'hui. Et la dernière action qu'elle a faite, c'est d'organiser la première Pride, marche des fiertés, à Sarajevo il y a quelques mois. Et enfin bon, donc c'est des choses très fortes et très voilà, ils sont tous en mouvement, ils sont tous lumineux, puissants. Et pendant le Radio Live, il y a aussi des moments où on rit, où on écoute les musiques qu'ils aiment, où parce que c'est ça aussi leur vie, quoi. Et même dans les émissions de radio, tout le temps, on avait envie de faire ça. À la fois, on a des discussions très sérieuses sur ce qu'on pense de la vie, de la société et tout ça. Et à la fois, on enregistrait aussi des soirées avec eux, la musique qu'ils écoutaient dans leur chambre. Parce que pour nous, ça raconte autant une personne, l'un et l'autre. Et c'est important de rester, voilà, dans la vie. Donc c'est aussi... dans l'idéal, on sort du Radio Live. Nous, déjà, très personnellement, d'entendre ces gens, de les connaître et tout, ça nous donne de la force, quoi. Donc... c'est l'idée de sortir, pas du tout, c'est le contraire d'être abattu, quoi. C'est au contraire de se dire waouh, peut-être parfois avec pas grand chose, des idées, de l'envie, on peut faire bouger les choses, quoi.
Je vais peut-être tenter de compléter ta question, Inès et Stéphane, parce que je trouve c'est intéressant sa question de la rencontre. Donc si je comprends bien, le spectacle, il est construit à la fois sur des images d'archives. Des archives de
personnel à eux,
ouais. Récits. Mmh. À la fois, quand vous faites la tournée du spectacle, vous êtes aussi à la rencontre de la jeunesse de la ville qui vous accueille. Mmh. C'est ce qui va se passer ici à Saint-Étienne. Mais comment se passe un temps de rencontre? Parce que la jeunesse, c'est très vaste. Donc comment on rencontre une jeunesse qui a des choses à dire? La jeunesse, c'est des thématiques, sous-thématiques multiples. Comment vous ciblez, vous orientez et vous provoquez ces rencontres? Est-ce que c'est véritablement le hasard? Quand vous avez déboulé dans un pays, c'est le hasard qui a fait telle et telle rencontre? Ou comment un journaliste aussi provoque peut-être la rencontre et réalise ses rencontres et entretiens?
En tout cas, c'est différent à chaque fois, parce que par exemple, là, à Saint-Étienne, là, on est venu deux jours et on nous a aidés à trouver des gens qu'on allait rencontrer. C'est pas tout à fait pareil quand on arrive au Rwanda ou en Afrique du Sud pour quelques jours. Enfin, donc à chaque fois... Et en fait, la particularité de ce projet, c'est qu'au début, c'était vraiment... on commençait par la radio. Donc on commençait par chercher des jeunes gens pour des séries radio. Et puis là, c'est vrai que directement, on cherche des gens pour le radio live. Enfin, donc, comme disait Caroline, ce n'est pas tout à fait les mêmes critères. Mais en tout cas, comment on rencontre des gens, ça, c'est tout notre travail. Et c'est hyper complexe à chaque fois à expliquer parce que ça passe par des milliers de choses, par des coups de fil, par des mails, par en fait passer... En fait, c'est du rebond. Donc, c'est parler à quelqu'un qui va parler à quelqu'un qui pense à son petit frère, qui a sa cousine, qui a un copain qui fait un truc génial parce que... Voilà. Et en fait, souvent, ce qui est difficile à comprendre aussi, c'est qu'on essaie de rester le plus large possible... ce qui peut paraître un peu bête au début, parce que c'est vrai qu'on appelle des gens en disant « Est-ce que vous connaissez des jeunes intéressants ?» Enfin, ou, tu vois, en gros. Mais donc, ça paraît un peu débile. Mais en fait, si on précise trop les choses et si on essaie de chercher un profil, on va le trouver. Et en fait, on va que trouver ce qu'on imagine. Enfin, tu vois, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut correspondre à peu près à... Et donc, pour essayer de justement rencontrer des gens qu'on n'aurait pas pu imaginer et qu'on ne connaît pas et on ne sait pas, tu vois, il faut rester le plus vaste possible et petit à petit, alors au début, c'est après, évidemment, on discute et on précise des choses, mais en gros, on dit, voilà, si vous avez... Et souvent, les gens, petit à petit, ils comprennent, c'est en fait quelqu'un, une jeune personne, une jeune fille, un jeune garçon que tu as croisé où tu te dis, ah tiens, lui, il a un truc particulier, où il parle d'une certaine façon, où il a un truc à dire, où... J'ai envie de passer du temps avec lui aussi, quelqu'un avec qui tu partagerais un café, parce que... Et quelqu'un aussi qui n'a pas une parole formatée, qui a pas forcément, qu'on n'a pas forcément entendu, parce que c'est plus facile quand tu es journaliste, évidemment, de... Et on le fait aussi, parce que c'est aussi des biais d'appeler des associations, des gens, enfin, des lieux où les gens sont déjà identifiés un peu. Ou... Mais c'est vrai que notre travail, c'est à la fois d'aller vers ceux-là et vers les gens qui ont envie de parler, c'est aussi d'aller vers des jeunes qui n'ont pas forcément envie de parler a priori et qui n'iraient pas vers nous. Et du coup, ça demande plus de travail, plus de temps, mais à travers des intermédiaires, c'est sûr que si on débarque quelque part, on dit on est journaliste, on a un micro, enfin ça marche pas comme ça, mais ça marche par plein d'intermédiaires qui, eux, ont la confiance de ces gens-là et qui comprennent notre travail. Et souvent, on nous pose la question, voilà, pourquoi je te ferais confiance, pourquoi? Et on peut pas répondre en deux mots à ça, je sais pas. Mais par contre, quand on raconte pourquoi on le fait, le travail qu'on fait et tout ça, souvent ça marche. Donc, en fait, après, on passe plein de coups de fil, on envoie plein de messages, et donc c'est par plein de biais différents. On appelle aussi, quand même, évidemment, des associations, des gens. Mais souvent, c'est aussi par Internet, sur les réseaux, on laisse des messages. Et après, dès que tu connais une personne qui te renvoie vers d'autres personnes, souvent, on tombe sur des profils et sur des gens un peu. Passionnants et qui ont plein de choses à raconter. Mais c'est vrai qu'au départ, si on appelle quelqu'un en disant j'aimerais bien un jeune qui, je sais pas quoi, s'intéresse à l'agriculture, qui a une famille qui fait ça, qui a commencé un lycée agricole à 17 ans et qui machin, on va le trouver. Mais du coup, on a déjà toute l'histoire. Donc, et c'est vrai que ça nous a permis de rencontrer des. Rien que là, on vient de passer l'après-midi à Saint-Étienne à rencontrer des jeunes. Et. Moi, j'aurais pas pu imaginer leurs histoires. Enfin, et c'est génial. Et c'est vrai qu'quand on en a parlé avec la comédie, c'est resté très vaste. Donc, au début, c'est un peu, tout le monde est un peu perdu parce qu'on se dit oula. C'est... Et puis, tout le monde a potentiellement, évidemment, une histoire intéressante à raconter. Après, c'est vrai qu'on a tous des gens qui nous restent en mémoire ou quelqu'un qu'on a croisé qui nous a dit ou un jeune où on sent qu'il y a un truc. On connaît pas forcément l'histoire, mais bon, on voit dans sa façon d'exprimer que ça peut être intéressant. Voilà.
Parce que le casting, c'était un peu une boutade tout à l'heure, mais en radio, on cherche aussi souvent le bon client, hein,
quand
même, celui qui a un bon profil.
Après, c'est sûr que on veut pas. C'est pas l'idée non plus de. C'est sûr qu'il faut quand même savoir raconter une histoire parce qu'il faut que ce soit transmis. Ouais. Donc, c'est vrai que si on a trop de mal à la raconter, donc c'est vrai quand même que tout à coup, s'il y a une voix, une énergie, ça compte aussi. Et c'est pour ça que Caroline disait sur scène, enfin l'idée c'est pas de mettre les gens mal à l'aise, donc parfois par exemple en Inde, je sais pas, on avait rencontré un jeune qui avait vécu la guerre du Cachemire, qui avait une histoire vraiment hyper forte et c'était passionnant, mais en radio ça aurait sûrement été super parce qu'on pouvait monter et tout, mais il était très très timide, il mettait beaucoup de temps à raconter les choses et en fait ça lui aurait pas rendu service que de le mettre sur scène parce qu'il aurait été juste super mal à l'aise, il savait pas comment se... Donc malgré l'histoire qui était dingue, c'était impossible, quoi. Donc,
Et après, l'exemple que donne souvent Aurélie, et je trouve qu'il est rigolo, c'est vrai que organiser un radio live, ça peut aussi être un peu comme organiser un dîner où, et là par exemple il va falloir qu'on trouve aussi des jeunes qui vont pouvoir être complémentaires sur scène parce que tout le monde, on veut pas que des gens qui s'expriment avec grande facilité sur scène, qui adorent prendre la parole, qui se font leur petit show à eux tout seuls. Il y a des gens comme ça et c'est parfois très appréciable et on les admire parce qu'ils ont une facilité à prendre la parole, mais c'est chouette aussi sur scène du coup de créer différentes, de rassembler différentes énergies, d'avoir aussi des jeunes un peu plus timides qui vont avoir une profondeur ou être dans une autre forme de récit. Et donc voilà, ça va créer du relief sur scène d'avoir ces différentes énergies ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant dans le travail sur scène, qu'on n'aurait pas forcément comme contrainte ou de cette façon-là pour la radio.
Et pourquoi vous avez choisi cette tranche d'âge, 20 ans, 30 ans?
Je pense qu'à 20 ans, on commence à avoir fait des choses qui sont des choix personnels et propres, peut-être plus que quand on est adolescent, où peut-être on est plus influencé par ses parents, où on est plus dans un chemin qui est un peu tracé. À 20 ans, je pense que les jeunes commencent à se poser des questions sur ce qu'ils veulent faire ou avoir fait des choix qui sont intéressants à expliquer, à raconter. Et après, je pense que c'est vrai qu'il y a une énergie qu'on retrouve chez les vingtenaires, peut-être quelque chose qui, où ils se disent qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore possibles et qu'on voit peut-être un peu changer ou évoluer vers 30 ans, où on n'a plus la même façon de voir la vie, de voir les projets, de voir... donc moi, je sais que c'est c'est une tranche d'âge qui nous intéresse beaucoup et on l'a constaté nous-mêmes. Je pense qu'à 30 ans, on n'a plus tout à fait la même... les choses sont un petit peu moins ouvertes et je pense que c'est important justement d'aller chercher des jeunes pour qui les choses sont encore très ouvertes, parce qu'entendre cette ouverture-là et ces possibles-là, c'est très sain et très important.
On s'imagine qu'ils ne parlent pas tous français. Comment vous faites pour dialoguer entre vous? Comment vous faites pour traduire pendant les représentations
On ne comprend rien, on traduit en faisant semblant. On invente, et parfois, du coup, on peut inviter des gens pas très intéressants et on brode en faisant sa traduction. Non.
En tout cas, quand c'est pour la radio, on a des traducteurs sur place, quand c'est des langues qu'on ne maîtrise pas. Et après, pour le radio live, souvent, ils parlent quand même anglais. Souvent, c'est notre langue. Par exemple, là, on a été en Inde et les Indiens, bon, ils parlent beaucoup anglais. Et quand ils sont venus en France, du coup, sur scène, ils parlent anglais et nous, on traduit simultanément, quoi. Enfin, juste après. Donc, après, comme on ne parle pas beaucoup d'autres langues, on ne peut pas sur scène. Mais souvent, l'anglais nous permet quand même d'inviter des gens qui ne parlent pas français et de parler sur scène. Après, à la radio, c'était encore plus libre parce que si des gens parlent arabe ou russe, où on pouvait ensuite se faire traduire. Mais là, on veut que ça reste quand même assez fluide. Et en fait, on l'a fait une ou deux fois avec des traducteurs sur scène. Mais du coup, ça double un peu le temps. Enfin, bref, ça ne marchait pas forcément. Donc, on préfère qu'ils parlent anglais, même si c'est pas leur langue natale, mais leur deuxième langue. Et nous, traduire dans le flux, comme ça reste vivant, ça reste dans le rythme. Voilà. Mais il y en a pas mal qui ne parlent pas français, qui participent souvent.
Juste, tout à l'heure, on parle de plusieurs fois... on l'avait déjà fait, ce spectacle, ou il est tout nouveau
Je crois que à Saint-Étienne, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est le 75e ou 76e. Et ça n'a jamais été le même, donc, parce que c'est jamais les mêmes exactement qui viennent. Donc, en fait, on a commencé en 2013 et on l'a fait pas mal de fois, à la fois en France et à l'étranger. Mais après, ça a pas mal évolué, parce qu'au tout début, c'était vraiment une intuition d'appeler des gens, de les réunir. Donc, en fait, au début, il n'y avait pas... dans les tout premiers radios live, il n'y avait pas Amélie qui dessinait, par exemple. C'est arrivé un peu après. Donc, la forme, aujourd'hui, en tant que telle, ça s'est construit petit à petit. C'était pas tout de suite comme ça. Mais en tout cas, ça fait plusieurs années. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'à la fois, sur scène, maintenant, il y a des jeunes qu'on connaît depuis vraiment longtemps qui participent. Et on a beaucoup d'archives d'eux, de fait, parce qu'en fait, on a fait des choses ensemble, on les a enregistrées il y a 7-8 ans, donc voilà. Et d'autres qu'on a rencontrés récemment. L'année dernière, on était au Rwanda, en Afrique du Sud. Et donc, eux, ils sont venus, par exemple, à Paris cette année. Et on les connaît depuis un an et ils ont rencontré Amir de Gaza ou Gal de Tel Aviv, qu'on connaît depuis 10 ans. Donc, c'est super aussi d'élargir à chaque fois ce petit groupe et en même temps que les anciens accueillent les nouveaux et ça se renouvelle et ça s'élargit. Et là, il y aura une nouvelle personne de Saint-Étienne qui participera et qui rencontrera ceux qui ont l'habitude de participer. Enfin, on aime bien ce mélange.
Est-ce qu'il y a un ou des points communs avec, entre tous les jeunes avec qui vous travaillez,
Je pense que, un truc qu'on aime bien préciser avant quand on parle de points communs et tout, c'est que pour nous, c'est quand même vraiment important de dire que c'est des jeunes qui, en tout cas, se ressemblent pas, qui ont des vies très différentes, des parcours. Ils n'ont pas les mêmes convictions politiques parfois, pas les mêmes religions évidemment, ils ne viennent pas des mêmes communautés, ils n'ont pas grandi dans les mêmes pays, ou quand ils ont grandi dans les mêmes pays, ils ne viennent pas forcément des mêmes milieux sociaux. Mais donc pour nous, c'est important de se dire que ce n'est pas se réunir pour se dire « Ah, on pense tous pareil, on est tous d'accord et c'est trop bien d'être ensemble ». Au contraire, c'est pas grave de pas être pareil et donc on se raconte nos histoires et tout ça. Après, ils ont tous comme point commun, évidemment, d'avoir envie de se rencontrer, d'avoir envie de se parler.
Du coup, quand même, d'avoir une forme de curiosité de l'autre et
de générosité,
de tolérance. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de jeunes
intolérants
ouais, sur scène, mais ce qui pose question aussi, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de comprendre comment on en arrive là, mais en tout cas pour cette forme-là, ça ne collerait pas, parce qu'il faut quand même une vraie curiosité pour l'autre, et ils sont toujours très attentifs d'écouter les récits des autres, et c'est ça qui est aussi chouette, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont contents d'être là, et tout le monde, et eux, ils sont excités de se rencontrer entre eux, et donc ça c'est important. Et après, ce qu'on dit souvent aussi, c'est que quelque chose qui nous intéresse, c'est que ce sont tous des jeunes qui se sont pas interdits d'évoluer et de réfléchir à leur endroit et de se dire qu'il y avait peut-être un autre endroit où ils pouvaient essayer d'aller, où ils étaient peut-être pas attendus. Et donc c'est tous des jeunes qu'on admire beaucoup parce qu'ils ont une situation donnée qui n'était pas forcément toujours simple et qui se sont tous autorisés à essayer d'aller voir ailleurs et de devenir une personne qu'ils n'étaient pas prédestinés à être.
Et en tout cas, aller dans des endroits où, a priori, on ne les attendait pas. Et souvent, c'est aussi un peu psychologique, c'est un peu un déclic de se dire « Bon, je m'autorise à penser que moi aussi, je peux aller là ou moi aussi, je peux faire ça. » Et après, ce n'est pas forcément évident parce qu'il y en a qui viennent de milieux ou d'endroits où depuis qu'ils ont, 8, 9, 10 ans, très tôt, quoi, on leur dit « Toi, soit l'école, ce n'est pas pour toi, soit toi, tu feras ça. » Enfin, bon. Et donc, c'est ça qui est assez fort pour nous. C'est des histoires très différentes, mais à chaque fois, ils se sont... autorisé en effet à se dire je peux rêver aller à cet endroit, je peux, et même si ça apparaît inaccessible à un moment donné, et c'est pour ça qu'ils se sont vraiment déplacés et ils ont tous ça en commun aussi quoi.
Comment vous avez travaillé sur le lien entre les différents supports, le son, la vidéo, la radio, le théâtre, le dessin?
C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on a proposé... donc nous, on fait vraiment du son, de la radio, c'est ça notre métier. Et après, en étant sur scène, on a proposé à Amélie Bonin, qui est dessinatrice, illustratrice, qui est aussi réalisatrice, donc qui a plus un rapport à l'image. On avait déjà fait des choses avec elle, en fait, pour la radio. Enfin, on avait déjà réfléchi à ce lien entre image et son. À un moment, moi, elle a dessiné plusieurs années mon émission que j'avais sur France Culture en direct. Elle était dans le studio et elle dessinait en direct. Donc on avait déjà cette réflexion ensemble. Et en effet, sur scène, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des histoires parfois un peu difficiles ou denses, en tout cas. Et on avait envie que sur l'écran, que l'image, ce soit pas juste, évidemment, une illustration de ce qui se raconte, mais un peu aussi une échappée ou un espace un peu poétique où il y a parfois, elle écrit un mot qui lui vient, ou c'est un paysage, ou enfin, c'est plus un écho. Et aussi l'espace de l'imaginaire, parce que justement, c'est aussi quand même des jeunes gens qui ont la vie devant eux, et donc que l'imaginaire et le rêve et les possibles, c'est quand même très important aussi. Donc comme on parle parfois dans les histoires, évidemment, de choses très quotidiennes et parfois un peu dures et lourdes, mais on avait envie que ces deux parties d'eux et de leur vie soient présentes. Donc c'est vrai que dans le lien entre le son et l'image, on réfléchit beaucoup à ça aussi, et surtout Amélie, en préparant, à garder cette liberté de... Parfois, c'est vraiment un écho et un dialogue avec ce qui se passe sur l'écran, mais c'est pas... Parfois, ça reprend des images, des choses dont on parle, mais c'est vraiment un espace de projection. Et ce qu'on aime bien, c'est quand les gens regardent le Radio Live dans le public, c'est pouvoir naviguer aussi, regarder la personne qui parle, mais parfois, regarder les dessins d'Amélie et tout en écoutant. Et donc, en fait, on peut un peu se balader avec son regard... Et pendant, on écoute des sons aussi parfois, on écoute des extraits de leur voix qu'on a justement enregistrés avant quand on les a rencontrés. Et donc là, la scène est un peu plus... On baisse un peu la lumière et donc là, on est vraiment que sur l'écran et ça permet vraiment de se rapprocher quand même d'une expérience aussi qu'on a à la radio, même si là, on propose des images, mais qui sont très ouvertes, quoi. Et donc de rêver aussi, d'être aussi... quand on écoute le radio live, d'être aussi avec soi-même, quoi, et ses propres images, ses propres ressentis, et de rester très libre, voilà, à l'intérieur.
Juste aussi une petite question technique, vu qu'on est sur un spectacle radiophonique, est-ce qu'il y a un dispositif particulier, parce que c'est aussi un rapport au son particulier, la radio, est-ce qu'il y a un dispositif particulier, type port du casque pour les spectateurs, spectatrices, et comment vous avez peut-être aussi envisagé cet aspect-là, quoi, le côté très audio, quoi.
Il n'y a pas de transmission. Parce que c'est quelque chose ici que les gens pensent souvent, c'est que Radio Live est diffusé en direct à la radio.
Non, mais est-ce qu'il y a des casques dans le public?
Oui, mais je m'imagine que c'est peut-être aussi une autre question. Donc ce n'est pas diffusé à la radio et dans le public, du coup, non, il n'y a pas de... Oui, cette fois-ci, oui, mais ça a été le cas aussi une fois à la radio universitaire, à Radio Campus. Donc ça, c'est très très chouette quand ça peut avoir lieu, mais la principale... Enfin, d'habitude, ça ne l'est pas toujours. Et non, il n'y a pas de casque. Il n'y a pas vraiment de dispositif audio spécial.
Non, c'est juste que...
Nous, on reproduit quand même l'idée de la radio. Donc, on aime bien, par exemple, lancer des sons. Et sur scène, le dispositif scénique, il y a
à vue, quoi.
Il y a des choses
comme
qui rappellent la radio.
Comme dans un studio de radio, voilà. On écoute tel son, on le lance avec des gestes, comme on fait à la radio, à la régie, tout ça. Et après, c'est juste que, en tant que spectacle, le son... Enfin, on est tous, il y a une table comme à la radio, on est tous autour de micros. Donc voilà. Après, il n'y a pas un dispositif, on n'est pas en son immersif, on n'est pas, il n'y a pas un dispositif particulier de son.
Une petite dernière question. Comment est-ce que vous expliquez le fait que les gens se méfient de plus en plus de la jeunesse, que ce soit adolescence ou entre 20 et 30 ans?
C'est marrant, moi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi vous pensez. Enfin. Qui dit qu'on se méfie? Est-ce que vous avez vraiment l'impression de ça? Impression-là.
Par exemple, moi, un jour, je suis rentré dans un bar, c'était pendant les manifestations, et j'avais très très mal aux yeux, j'avais soif, et j'ai juste demandé un verre d'eau ou si je pouvais aller aux toilettes, et on m'a rejeté un peu comme si j'étais un fouteur de...
Troubles.
De troubles. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense que les gens se méfient vraiment de la jeunesse, en fait.
Après, je pense que comme c'est une puissance d'imagination et d'invention, et de forcément ça. Après, je pense pas que tout le monde se méfie de la jeunesse et que ça fait peur à tout le monde, parce qu'il y a quand même des gens dans la société qui s'intéressent, heureusement.
Je pense aussi que c'est quelque chose qui a toujours eu lieu. J'écoutais, je sais plus quoi, justement de la radio récemment avec des anciens qui racontaient que quand ils étaient jeunes, ils faisaient plein de bêtises dans les rues et les gens s'en méfiaient, les gens s'écartaient d'eux quand ils voyaient les groupes de jeunes. Donc je pense qu'il y a toujours, de tout temps, eu un rapport à la jeunesse où ça pouvait être un élément plus disruptif de la société. Donc je pense que c'est important aussi de rappeler ça, parce que c'est pas nouveau, mais...
C'est un peu différent, mais il y a un super beau livre qui s'appelle Nos cabanes, tout petit livre de Marielle Massé, dont vous avez peut-être entendu parler, qui parle de toutes les nouveaux modes de résistance et de collectif, voilà, du moment. Et elle commence à parler des ZAD, elle parle de Notre-Dame-des-Landes, et elle dit... elle s'étonne de la violence, en effet, de l'État par rapport à ces endroits et à vouloir absolument les détruire et tout ça. Et c'est intéressant ce qu'elle dit, parce qu'elle dit que finalement, pourquoi ça fait si peur, pourquoi c'est si énervant, pourquoi il y a une réaction si violente face à, en fait, des gens qui ont globalement construit des cabanes dans une forêt, planté des poireaux, et tu vois. Mais c'est qu'en fait, c'est une preuve tangible qu'on peut vivre autrement, en fait. Et ça existe. Et donc, en fait, pour un État, c'est insupportable. Et je pense que la jeunesse, c'est aussi souvent ça. Elle prouve par plein de moyens, par des idées, qu'en fait, on peut faire autrement, on peut vivre autrement, on peut imaginer autrement. Et pour certaines personnes, pour des choses installées, c'est hyper menaçant, quoi, forcément. Donc, je pense que c'est ça aussi. Mais il y a heureusement des gens qui réussissent, j'espère, à le voir pas comme une menace, mais comme une chance.
Dans un autre podcast, j'entendais que le cerveau est fabriqué pour répondre toujours de la même façon aux mêmes questions, pour ne pas perdre du temps à chaque fois devant un même problème, apporter des solutions différentes ou se reposer la question de pourquoi les choses sont comme ça, etc. Donc c'est un truc de survie pour aller plus vite, pour que le cerveau fonctionne plus vite. Et du coup, c'est vrai que je pense aussi, peut-être qu'en vieillissant, on apporte souvent les mêmes réponses et des gens qui vont arriver avec des réponses nouvelles en disant, en expliquant en fait cette question à laquelle tu réponds toujours de la même façon, peut-être que tu peux y répondre autrement. En fait, c'est toujours un peu fragilisant et je pense que c'est ça. Et du coup, c'est d'autant plus important de garder cette gymnastique de cerveau, de toujours se dire qu'on peut répondre autrement aux mêmes questions, que les situations peuvent évoluer et que les jeunes peuvent apporter des réponses différentes et qu'il faut savoir les écouter.
Ok, et dernière question. À votre avis, pourquoi il y a si peu de place sur la parole, enfin, pour les jeunes, dans les émissions, dans la prise de discussion?
Donc justement, nous, c'était un peu le départ de ce travail sur la jeunesse, parce que comme on était jeunes quand on est arrivé et on avait envie qu'il y ait plus de jeunes gens qu'on entende. Je pense aussi que c'est une question, dans tous les endroits où on est allé, de prise au sérieux. Enfin, il y a beaucoup de jeunes gens qui nous disaient qu'ils ne se sentaient pas pris au sérieux, alors que même s'ils avaient 20-22 ans, ils avaient envie de se présenter en politique, de monter une association, et qu'en fait, ils avaient envie d'être pris au sérieux autant que quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il y a toujours un peu ce souci-là de se dire que voilà, on peut écouter sérieusement des gens, même si... Et bon, après, j'espère que ça change un peu. Enfin, en tout cas, nous, on travaille à ça, on n'est pas les seuls. Enfin, mais c'est vrai que c'est encore un effort à faire. Et après, il faut aussi prendre la place. Enfin, il ne faut pas hésiter, comme vous le faites, à créer des espaces et à prendre la parole, quoi. Parce que c'est vrai que si on attend qu'on nous la donne, souvent, on peut attendre longtemps. Donc, à un moment donné, c'est facile à dire, mais c'est vrai que c'est important aussi de se dire, et ça rejoint tout ce qu'ils ont en commun, ces jeunes qu'on a rencontrés, c'est ça, quoi. C'est qu'à un moment, ils n'ont pas attendu qu'on leur donne un truc, parce qu'ils ont compris très vite que sinon, ils pourraient attendre longtemps. Et donc, il faut essayer de prendre la place et de prendre l'espace et de...
Et trouver des nouvelles façons de le faire, parce qu'il y a aussi plein de nouvelles façons de se raconter, de chercher l'attention médiatique. Moi, c'est aussi un peu quelque chose que je regrette. Enfin, par exemple, là, en ce moment, avec la réforme des retraites et tout ça, de se dire qui va prendre la parole et faire et dire les choses autrement et apporter des nouvelles façons de montrer qu'il y a des choses qui vont pas. Et ça, je pense qu'il y a mille façons, mille idées possibles et que c'est important que les gens n'attendent pas de faire comme on a toujours fait, n'attendent pas qu'on leur donne la parole et proposent des nouvelles façons de raconter les choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de médias et parfois l'influence médiatique est mauvaise, mais il y a aussi une curiosité des médias pour les formes nouvelles. Donc il y a une possibilité de se faire entendre. Il y a aussi des nouvelles façons de produire du contenu, des podcasts, etc. Et c'est toutes des formes qui n'étaient pas forcément accessibles pour nos parents, nos grands-parents. Et donc, je pense qu'il y a plein de façons de se faire entendre aujourd'hui. Il faut s'en saisir.
Je sais pas, vu que c'est peut-être la fin de l'émission, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
Merci pour vos super questions, ouais, c'était très bien préparé, c'est très intéressant de discuter avec vous. Bravo pour ce que vous faites. J'espère que...
Très curieuse aussi de la radio que vous allez faire sur scène, ça nous intéressera que vous nous racontiez.
Oui, que vous nous racontez le projet de la fin de l'année sur scène, ouais.
Okay. Bonne soirée, merci. J'espère qu'on te donnera des verres d'eau quand tu rentreras.
Oui, dans les à tous ceux qui nous écoutent, il a un petit chapeau violet, violet et un pull rose et il ne va pas vous faire de mal.
Les apparences sont trompeuses.
Ouais. Mais sinon, la prochaine fois, tu peux peut-être mettre un petit pantalon plissé, te mettre du gel, une cravate. Non, je rigole. Reste comme tu es.
Comme... Ouais, non, je vais arrêter là.
Merci beaucoup
en tout cas. Merci.